les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Une grave autorité à l'époque s'était prononcée en disant que l'Afrique était à la traîne. Cela voulait dire que tout ce qu'on pouvait trouver en Afrique comme fait de civilisation ne pouvait dater que d'une époque relativement récente et qu'il était même devenu une sorte de sacrilège de comparer les faits de civilisation africaine des faits de civilisation des autres continents. Il fallait considérer l'ensemble du continent africain à part.
Ce qu'il ne pouvait accepter. Et c'est ce qui va motiver son engagement, le choix de sa carrière de chercheur. Il s'agit pour lui de mettre fin à cette conception qui exclut le nègre de l'histoire universelle. Depuis la conférence du Caire en 1974, organisée à l'initiative de l'UNESCO qui lui a permis de confronter sa théorie de l'Égypte nègre, mère de la civilisation grecque, à celle de ses homologues scientifiques, anthropologues et égyptologues des autres continents, Cheikh Anta Diop, davantage pris au sérieux, sillonne l'Afrique de part en part pour vulgariser le résultat de ses recherches. Mais aussi pour inviter les Africains en général à se réapproprier leur histoire.
Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie, parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau. Ce n'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même une fois qu'on leur a démontré, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer.
Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique, consacrée à Cheikh Anta Diop. Depuis le colloque du Caire en 1974, Cheikh Anta Diop, qui a gagné en crédibilité, mais également en confiance, est désormais de tous les grands rendez-vous scientifiques. Il sillonne l'Afrique à la fois pour confronter ses recherches avec celles de ses autres homologues et anthropologues africains, mais également les autres grands rendez-vous mondiaux consacrés à l'histoire universelle. Avec Théophile Obenga, son disciple, il a fait école. Et les adeptes se comptent désormais sur tout le continent, mais également aux États-Unis d'Amérique et aux Antilles où il compte des amis. Même s'il ne s'y est pas encore rendu. Tout se passe comme si la critique le poussait à aller plus loin dans ses recherches. Désormais, plus de complexe.
Je m'étais dit que si les anciens Égyptiens sont des Noirs, on peut le savoir en étudiant la peau des momies. Effectivement, j'ai procédé à une telle étude et j'ai déposé la conclusion dans un article que j'en ai parlé aussi dans le cadre du congrès du Caire. C'est-à-dire que si vous faites des prélèvements, vous pouvez montrer des préparations de l'ordre de quelques microns, de quelques 4 à 5 mu. Vous pouvez éclaircir avec du benzoate d'éthyl. Vous pouvez regarder en lumière polarisée ou même en lumière naturelle. Si vous regardez en lumière polarisée, vous pouvez rendre fluorescent les grains de mélanine. Et il reste encore, quel que soit le traitement de la peau de la momie, il reste encore suffisamment de mélanocytes avec suffisamment de grains de mélanine pour qu'on se rende compte que c'est une peau qui contient un taux de mélanine incompatible, n'est-ce pas, avec l'idée d'une race leucoderme. Et une autre preuve, c'est le canon de Lepsius. Vous savez que Lepsius est un Prussien du 19e siècle, mais c'était un savant de bonne foi. Et je crois que nous devons rendre hommage aux savants de bonne foi, ceux qui ont le courage. Moi, je respecte l'objectivité. L'objectivité est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Il a établi ce qu'on a appelé le canon de Lepsius, c'est-à-dire des mensurations ostéologiques. Il a fait un quadrillage de l'Égyptien parfait et il décrit l'Égyptien parfait comme un nigricien.
Si Cheikh Anta Diop parcourt le monde pour vulgariser sa théorie, s'il est désormais reconnu comme un éminent savant, comme un scientifique de renom, il semble dans le même temps insatisfait de la situation politique en Afrique en général et au Sénégal, son pays en particulier. Il rêve d'une doctrine énergétique globale qui permettrait l'industrialisation du continent. Il rêve également d'une meilleure maîtrise de l'exploitation et de la commercialisation des matières premières africaines. C'est pourquoi, en 1976, il essaie de se lancer à nouveau dans le champ politique. Il a manifestement oublié les déboires qu'il a connus avec Léopold Sédar Senghor en 1964. Déboires qu'il avait finalement conduit à la prison. Docteur Yorossi, vous qui étiez, je dirais, un de ses proches, un de ses disciples, pourquoi s'intéresse-t-il tant? Pourquoi rentre-t-il à nouveau dans l'arène politique? Qu'est-ce qu'il vient y faire alors qu'il avait un grand chantier à l'échelle au moins continentale? C'est le pouvoir?
Je peux vous le dire, le pouvoir politique, il n'en voulait pas, il ne voulait pas que... Et une fois, le grand Serigne lui a proposé cela, le Serigne Fallou, qui soutenait Senghor, il lui a dit, mais on dit que je soutiens Senghor. Que je ne suis pas sérieux, je suis un grand marabout et je soutiens un catholique. Il a dit, oui, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi je soutiens Senghor. Mais je voudrais qu'au départ de Senghor, il y ait quelqu'un de chez moi. Et toi, cher, je voudrais que tu sois celui-là. Ce jour-là, je l'ai accompagné, je n'ai pas assisté à leur entretien. Mais quand il est sorti, il me dit, je te rends compte, le marabout veut que ce soit moi. Il dit, alors qu'est-ce que tu lui as dit? Il lui a dit, je lui ai dit d'attendre un peu et tout. Moi, j'ai quelque chose de beaucoup plus important. Moi, mon but, c'est de réconcilier l'homme avec lui-même. Alors, je vais diriger un petit pays comme le Sénégal, avec tout ce qu'il y a comme magouilleur et comme... Non. Bah, mais quand même, je suis obligé de faire de la politique parce qu'il faut un garde-fou, il faut que Senghor, là, on l'arrête un peu. Et tous les autres, sans ça, ils vont devenir tous des apatrides, des
déracinés.
Déracinés, voilà.
Pour entrer dans l'arène politique, donc, il crée un nouveau parti, le RND, le Rassemblement National Démocratique. Mais cette fois-ci encore, le président Poète va, par un tour de passe-passe, par une modification constitutionnelle pas très subtile, il faut le reconnaître, modification qui instaure ce qu'on va appeler la loi des trois courants en mars 1976, s'aborder le parti de Cheikh Anta Diop. Que dit cette loi des trois courants? Elle impose très clairement au mouvement politique de se référer explicitement à trois courants de pensée. Le libéralisme, le socialisme démocratique et le marxisme-léninisme. C'est eux qui doivent régir la vie politique au Sénégal. Le but en fait est de rendre le parti de Cheikh Anta Diop illégal. Le parti de Senghor prend l'étiquette du socialisme. Abdoulaye Wade et son PDS adoptent l'étiquette libérale. Et le PAI, le Parti africain pour l'indépendance, celui du marxisme-léniniste. Avec cela, tous les courants ont pris. Le RND donc de Cheikh Anta Diop, qui ne fait partie d'aucun des trois courants, est sommé de se dissoudre. Et malgré les recours, Cheikh Anta Diop est à nouveau écarté de la scène politique. Pire, en raison des poursuites judiciaires engagées contre lui dans cette bataille, il est inculpé. Il lui a même signifié l'interdiction de quitter le territoire sénégalais pour se rendre à l'étranger. Pourquoi cette animosité de Léopold Sédar Senghor vis-à-vis de lui, Amadi Ali Dien, vous qui étiez proche des deux? Qu'est-ce qui amenait le président Senghor à lui barrer de façon aussi forte la route en politique?
Senghor le dit. Senghor aussi ne voulait pas qu'il prenne la batterie politique. Il devait rester à la batterie culturelle, complémentaire parce qu'il vient des sciences exactes, que n'est pas le cas de ni Césaire, ni Gontran, ni d'autres. Senghor l'a bien compris, c'est pas pour rien qu'il a envoyé sur ses travaux au Caire, avec Barre Diouf.
Ouais,
il a fait un témoignage émouvant là-dessus, effectivement. C'est parce que Senghor savait très bien que c'est un allié, mais c'était pas un ennemi à proprement parler.
En cette fin d'année 1980, Cheikh Anta Diop est prisonnier dans son pays. L'interdiction de quitter le territoire national ne l'empêche pas de se consacrer à ses recherches, même si, c'est vrai, elle constitue un sérieux handicap.
Un message de chef d'État dans l'actualité, un message d'adieu, celui de Léopold Sédar Senghor qui depuis 20 ans dirigeait le Sénégal. Il quitte la scène politique à l'âge de 74 ans pour laisser la place à son premier ministre, Abdou Diouf, un orfèvre en matière d'économie et de finances. C'est hier soir à la télévision sénégalaise que Léopold Senghor, que l'on a souvent appelé le sage de l'Afrique, a annoncé son départ.
Je voudrais, comme président de la République, vous faire mes adieux. Et si j'ai un message à vous faire aujourd'hui, Sénégalaises et Sénégalais, c'est bien ce dernier message en faveur de la démocratie qui s'adresse à tous les citoyens et citoyennes de notre vieux pays. C'est la chose la plus importante, maintenir la démocratie, c'est-à-dire le pluralisme des partis, dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Quelques mois après ce départ de Léopold Sédar Senghor, son successeur Abdou Diouf fait adopter par l'Assemblée nationale une loi supprimant la limitation du multipartisme. Et le 7 avril 1981, le tribunal correctionnel de Dakar met un terme aux poursuites judiciaires engagées par le gouvernement contre Cheikh Anta Diop. Dans la foulée, au mois de juin de la même année 1981, le Rassemblement National Démocratique, le RND, de Cheikh Anta Diop est enfin reconnu. Abdou Diouf, qui dès les années 1955 lui témoignait déjà de l'admiration, veut en faire un allié. C'est peut-être pour cela qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles de février 1983, qui installe cette fois-ci confortablement Abdou Diouf dans le fauteuil présidentiel.
Victoire indiscutable pour Abdou Diouf, élu président de la République du Sénégal par 83% des votants. Un résultat sans surprise pour le successeur de Léopold Senghor et pour le Parti Socialiste au pouvoir. Abdou Diouf bénéficiait en effet du soutien de l'ancien chef de l'État et de celui des notables religieux. Le principal candidat de l'opposition n'obtient lui que 13% des suffrages. Une zone d'ombre pourtant, plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour aller voter.
Mais Cheikh Anta Diop est candidat aux élections législatives qui se déroulent le même jour. Abdou Diouf lui a promis qu'elles seront transparentes, libres et régulières. Mais elles vont être ponctuées de nombreuses irrégularités et fraudes. Maître Abdoulaye Wad, candidat malheureux.
Une certaine dose de fraude dans les élections peut être sujette à des contestations, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'en ce moment-là, il s'agit quand même d'élections. Et dans ces cas-là, on peut espérer de législature en législature, n'est-ce pas, perfectionner le système. Mais ce qui s'est passé dimanche 27 février, ce ne sont pas des élections, puisque le système a été vicié fondamentalement. On a permis à des gens de voter sans identification et les éléments de l'opposition n'ont pas reçu leur carte ainsi que les cartes des absents et des morts ont été distribuées à profusion aux responsables du Parti Socialiste. On a vu des gens voter 20 fois, 27 fois et quelqu'un même a avoué avoir voté 65 fois. Alors nous disons que ce ne sont pas des élections.
Dans ce grand désordre, malgré les fraudes que dénoncent les différentes forces de l'opposition, Cheikh Anta Diop est l'unique élu de son parti. Pour protester contre les irrégularités qui ont entaché le scrutin, tous les élus des partis d'opposition décident de boycotter l'Assemblée, de ne pas y siéger. Ils demandent purement et simplement sa dissolution pour de nouvelles élections. Cheikh Anta Diop est des leurs. Au bout des tractations et autres arrangements, les différents mouvements de l'opposition se résolvent à rejoindre l'hémicycle. Cheikh Anta Diop maintient sa position de boycott. Il dit, je cite, « ne reconnaître aucune valeur aux élections du 27 février 1983 et qu'il ne siégera pas dans une assemblée nationale issue de telles élections ». Seulement, cette décision va susciter au sein de son parti une véritable crise. L'unique élu qui refuse de siéger alors que les autres partis ont renoncé au boycott. Une idée inacceptable pour un bon nombre de membres du Rassemblement National Démocratique dont il est le président. Il va être déchu de son mandat et son siège va être occupé par un transfuge de son propre parti. Il va également faire l'objet de nombreuses critiques. Mais il s'interdit toute complaisance. Et ce fils de marabout reste fidèle au principe de la laïcité de l'État et mentionne le danger qu'il y aurait à jouer avec la religion. Amadi Alidien, philosophe sénégalais, proche de Cheikh Anta Diop.
Cheikh Anta a eu l'occasion de se prononcer en 1948 sur la religion. Et il a eu l'occasion aussi de nuancer sa position. Puisqu'il avait pensé qu'à un moment donné, que les religions avaient un caractère provisoire et que la science demeurerait. Ça, c'était une de ses thèses. Mais quand on regarde ce qu'il a écrit dans Nation Agriculture, par exemple face au marxisme, il dit quelque chose de très clair. Pour lui, le marxisme est un simple instrument, un simple guide. Ce n'est pas un dogme pour lui. Et il dit ceci, que cet ouvrage n'est pas une invention sur des questions données. Quiconque voudra se servir du marxisme comme guide d'action sur le terrain africain arrivera sensiblement aux mêmes conclusions. Mais attention, dit-il, il ne met en doute pas en doute la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Et il ajoute, il serait donc malhonnête de lire ce livre avec l'intention secrète d'y trouver un seul mot permettant de le jeter en criant au blasphème. Je pense que c'est très clair.
C'est très clair.
Sa formation de musulman, de mouride, n'est pas sans influence sur son attitude à l'égard du marxisme, surtout du marxisme de l'époque. Ce qui est le plus intéressant d'ailleurs, c'est que, d'ailleurs, un jeune burkinabé, Bado, l'a critiqué en disant qu'il instrumentalise le marxisme, exactement ce que vient de dire notre ami Djibril Samba. Mais ce qu'il dit, c'est que aussi, il n'est pas hostile au marxisme du tout. Il essaie d'en extraire ce qui peut, en tout cas, lui être utile. Et c'est pourquoi il critique l'intellectuel marxiste qui n'a pas soigné sa formation, qu'il a abordé d'une façon absolue sans penser à un moment à l'appliquer à l'Afrique. Je pense que ceci est très important. Et par la suite d'ailleurs, on verra combien il est séduit par l'Union soviétique qui était considérée comme l'allié de tout ce qui luttait pour l'indépendance. Et surtout la réussite de l'Union soviétique du point de vue du développement et surtout du point de vue de son industrialisation. Ça, on le voit parfaitement bien apparaître dans son livre sur les fondements économiques et industriels d'un futur État fédéral. Je pense que, de plus, dans l'antériorité des civilisations nègres aussi, il s'intéresse au problème de mode de production asiatique, mode de production africain. Il entame une discussion avec les gens sur les canals et autres qui ont publié dans ce domaine. Mais je pense que, malgré tout, Cher ne s'est pas préoccupé d'étudier le marxisme. Ce n'était pas son problème. Ce qui l'intéressait, c'était des problèmes d'antériorité des civilisations, des problèmes africains eux-mêmes. Par conséquent, à l'époque, bien entendu, la formation des étudiants africains n'était pas très, très, très développée, même du point de vue du marxisme. On se contentait des petits ouvrages, surtout qui intéressaient l'organisation des partis politiques, etc., etc., l'impérialisme, le statut suprême du capitalisme. Alors que lui, l'ordre de ses préoccupations n'était pas celle-là. C'était l'histoire. Par conséquent, je pense que ça explique un peu son attitude à l'égard du marxisme.
L'histoire, une obsession pour Cheikh Anta Diop. Il faut en finir avec les falsifications. Il faut confronter les recherches avec celles des autres chercheurs. C'est pourquoi il multiplie les conférences, les colloques et les discours dans les nombreuses rencontres où il est invité. Ainsi, il sera en 1981, juste après ses élections législatives entachées d'irrégularités, à Athènes, en Grèce, pour participer au colloque « Racisme, science et pseudo-science », réuni par l'UNESCO pour l'examen critique des différentes théories soi-disant scientifiques invoquées pour justifier le racisme et la discrimination raciale. Il est sollicité par tous pour donner son point de vue sur cette histoire qui divise. Ses positions sont sans ambiguïté désormais.
Dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience. On vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela les empêchait, les rendait aveugles. N'est-ce pas, pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions.
Il faut dire que même si Cheikh Anta Diop connaît du succès dans la jeunesse africaine, et maintenant dans les Caraïbes où il se rend en 1983, à l'invitation de ses amis Ernest Pépin, le directeur du Centre d'Action Culturelle de la Guadeloupe, et de l'écrivain Daniel Maximin, il doit faire face à une critique tout aussi violente et organisée. Amadi Ali Dien, philosophe et auteur sénégalais.
C'était un combattant solitaire, il était tout seul sur le combat, voulant répondre à tout le monde, alors que les gens sont armés d'une science qu'il qualifiera d'ailleurs à un moment dramatique de sa vie et disant ils ont une érudition féroce, seul devant plusieurs qui étaient équipés, armés et en même temps aussi qui travaillaient dans des organismes à plein temps pratiquement pour démontrer leur thèse.
Mais il en faut beaucoup plus pour le décourager. Il n'a qu'une petite soixantaine d'années et est intimement persuadé qu'il faut armer les jeunes Africains de cette idée, de cette vérité, afin qu'ils poursuivent ses recherches. Mais en réalité, qu'apporte cette théorie de l'Égypte nègre? Qu'est-ce que cela change? Pour Cheikh Anta Diop, cela change tout, comme nous allons l'entendre dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI.
Archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Les premiers spécimens d'hommes
apparu sur la terre sous la latitude du Kenya était nécessairement des négroïdes pour la simple raison que sous cette latitude, le flux de radiation ultraviolette est tel qu'aucun organisme supérieur ne peut vivre et survivre sans être protégé par un écran de mélanine.
Après un second flirt plutôt malheureux avec la politique, en ce début de la décennie 80, Cheikh Anta Diop revient à la passion de sa vie, celle qui lui a permis pendant quatre décennies de bousculer les conceptions orientées sur l'histoire universelle qui avait cours jusque-là. Une théorie qui venait perturber les lectures et interprétations de l'origine du monde et de l'Égypte telles que proposées par les grands scientifiques, les anthropologues de renom et les explorateurs qui excluaient le nègre de l'histoire. De nouveau, son laboratoire de l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire à Dakar, tourne à plein régime. Le scientifique immobilisé pendant quelque temps à Dakar est de nouveau de toutes les grandes rencontres scientifiques depuis l'arrivée d'Abdou Diouf à la tête du Sénégal. À 67 ans, il n'a pas fini de ramer à contre-courant et il veut transmettre son savoir au plus grand nombre, aux jeunes Africains. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique consacrée au docteur Cheikh Anta Diop. Cette thèse de l'Égypte nègre où les Grecs auraient puisé les outils, auraient appris les sciences et les techniques de base de la civilisation hellénique, même si elle continue de susciter dans le milieu scientifique et des égyptologues en particulier de vives critiques, malgré la démonstration de Cheikh Anta Diop au colloque du Caire, séduit de plus en plus de jeunes. Le scientifique sénégalais n'hésite plus à s'appuyer un peu plus aussi sur la linguistique, sur les similitudes qu'il a toujours notées dans certaines langues africaines avec celles de l'Égypte ancienne.
La parenté que j'ai établie entre le Wolof et l'Égyptien ancien, et même entre plusieurs langues africaines et l'Égyptien ancien, c'est une parenté de type génétique. C'est-à-dire, c'est une parenté qui ne peut pas être fortuite parce qu'elle porte sur la morphologie et la syntaxe. On s'aperçoit que si les langues européennes ont évolué très vite, surtout les langues romanes, si à partir du latin, si le latin a éclaté en quelques siècles pour donner naissance aux langues romanes, c'est à cause des invasions barbares. L'Europe a connu des bouleversements sociopolitiques extraordinaires à la fin de l'Antiquité. Et des gens d'un autre parler sont venus qui ont bouleversé complètement le latin et qui l'ont déformé de plusieurs manières et ça a donné naissance aux langues romanes. Alors, un phénomène de ce genre ne s'est pas produit en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle les formes linguistiques ont été conservées pendant un laps de temps si long. C'est de cette manière qu'il faut comprendre ce qui nous paraît au premier abord comme invraisemblable. Mais le fait existe. L'égyptien ancien est une langue africaine, n'est-ce pas? Disposant de ses formes archaïques, en quelque sorte. Nous avons la possibilité de faire de l'archéologie linguistique, en quelque sorte, à partir des formes égyptiennes. Et donc, c'est d'un intérêt scientifique immense.
Bien sûr, ces démonstrations continuent de susciter la critique des scientifiques qui estiment que cette théorie ne s'appuie pas toujours sur des sciences exactes.
On m'a fait beaucoup de procès d'intention, mais des études venant prouver le contraire, on n'a pas pu en faire de consistantes.
Il faut dire que des critiques, Cheikh Anta Diop en a fait l'objet depuis 1954. Et s'il a résisté, c'est bien parce qu'il s'appuyait sur des disciplines scientifiques, sur la recherche. Des domaines dans lesquels le langage est universel. C'est pourquoi dans cette période, dans ce début de la décennie 80, il ne s'encombre pas toujours de la diplomatie nécessaire pour exprimer sa pensée. Pour lui, le salut de la recherche en Afrique, la crédibilité et la fin des falsifications passent d'abord par la faculté des jeunes à maîtriser les disciplines scientifiques. Sans cela, ils seront toujours critiqués et jamais pris au sérieux.
Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe à formation égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel.
Docteur Mazamba Diop, vous êtes le Benjamin de ses enfants. Vous êtes médecin, urgentiste et créateur de SOS Médecins à Dakar. Cette passion, cette envie d'armer la jeunesse africaine des sciences jusqu'aux dents dont parlait votre père, a-t-il influencé votre orientation académique? Parce que lorsque l'on regarde dans la famille, quasiment tous, vous êtes docteur et avez suivi des cursus scientifiques. Faisiez-vous partie de ces jeunes qui devaient prendre la relève?
C'est toujours un peu délicat. En tout cas, je vous dis mon ressenti. Après, chacun. Le ressenti était plutôt que, finalement, nous avions un peu le choix dans le doctorat en sciences que nous voulions et qu'ensuite, nous pouvions aller nous élargir notre culture générale dans tous les autres domaines, voire en parallèle, que ce soit les lettres, que ce soit donc ou bien ça fait partie d'ailleurs la philosophie ou tout autre domaine. Alors le sport aussi est extrêmement important, mais pour vous dire, c'était un peu particulier. C'était la base était un doctorat d'état et en sciences, et puis ensuite on élargissait.
Mais n'y a-t-il jamais eu de pression pour vous orienter vers les sciences?
Il n'y a jamais eu. Alors je suis le dernier, hein. Je pense qu'aussi c'est important, et avec un espace entre presque de 10 ans entre l'aîné et moi, mais je n'ai jamais ressenti la moindre contrainte et la moindre pression. C'était quelque chose qui était spontané, était naturel et qui semblait évident que nous devions nous former au plus haut niveau.
Annette Mbaye d'Erneville, une amie de Cheikh Anta Diop.
Il y a des universitaires qui, dès que vous êtes avec eux 2 minutes, veulent vous montrer qu'ils sont agrégés de ci, machin de là, etc. C'était pas du tout le cas de Cheikh Anta.
Dans ces années 1980, Cheikh Anta Diop consacre l'essentiel de son temps à la recherche. Son laboratoire de carbone 14 accueille plusieurs de ses disciples venus d'horizons divers pour y travailler avec lui. Février 1986, Cheikh Anta Diop s'éteint brusquement à la suite d'une crise cardiaque. L'annonce de sa mort va susciter partout dans le monde noir des réactions de sympathie. Et même le président Léopold Sédar Senghor, qu'il avait combattu sur le plan politique, va lui témoigner son respect en ce mot, je cite. Comme on le sait, le professeur Cheikh Anta Diop a plus que tout autre Africain établi méthodiquement, scientifiquement que les Égyptiens, c'est-à-dire les fondateurs avec la première écriture de la première civilisation digne de ce nom, étaient des nègres. C'est au demeurant ce qu'a suggéré Hérodote, le père de l'histoire, qui avait voyagé en Égypte. Comme je l'ai souvent affirmé, le professeur Cheikh Anta Diop avait raison plus sans doute qu'il ne le croyait. C'est mon confrère, le professeur Jean Bernard, l'un des plus grands biologistes du monde, qui m'a affirmé l'autre année que, quand on peut s'appuyer en même temps sur le sang et sur la langue, on est sur un terrain solide. Fin de citation. Annette Mbaye d'Erneville, une amie de Cheikh Anta Diop.
Il y a un fait qui me revient à sa mort. C'était un samedi qu'on devait l'amener à Tchaïtou. Et à ce moment-là, j'enseignais au CESTI, l'école de journalisme de l'université de Dakar. Mmh. Notre directeur, c'était Babacar Sin. À ce moment-là, c'était Abdou Diouf qui était président de la République. Et son directeur de cabinet, c'était Mustapha Ka. Mustapha Ka, qui est de ma région, qui est donc du Saloum comme moi. Et dans le bureau de Babacar Sin, je suis rentré dans le bureau de Babacar Sin, et je lui ai dit, mais tu sais, on va appeler Mustapha Ka, et on va lui demander de voir le président. Comme chaque samedi, il se rend en villégiature à Popinguin, où ils ont une maison de repos, où les présidents ont une maison de repos, que le cortège s'arrête 2 minutes devant la dépouille de Cheikh Anta pour lui rendre hommage. Mais dans ces sphères administratives, je prie Mustapha Ka de m'excuser, on a un tout petit peu peur de l'autorité. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense, hein, je n'en suis pas sûr, que Mustapha Ka n'a jamais demandé au président Abdou Diouf de faire ce petit arrêt devant la maison de Cheikh Anta, devant la dépouille mortelle de Cheikh Anta, pour lui rendre hommage. Ce qu'il aurait grandi, hein, lui, Abdou Diouf.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il en est advenu? Quand vous faites une grosse faute, vous essayez toujours de la racheter, de vous racheter par des grands faits. Qu'est-ce qui est arrivé? On a donné le nom de Cheikh Anta Diop à l'IFAN. On s'est dit non, ça ne peut pas racheter l'abandon dans lequel intellectuellement et culturellement on l'a mis. On a dit l'université Cheikh Anta Diop, non, ça ne suffit pas. L'avenue Cheikh Anta Diop. Et la même chose est arrivée pour Senghor.
Avec sa mort, sa théorie va également connaître un extraordinaire développement et une vulgarisation singulière, notamment dans les milieux noirs d'Amérique et des Caraïbes. Amadi Alidien, je sais que vous étiez un de ses plus farouches critiques. Avec le recul, que peut-on objectivement garder de lui, de ses recherches?
Ce que je peux garder de Cheikh Diop, c'est le fait d'avoir tenu compte de l'état de nos populations, c'est-à-dire utiliser l'argument culturel, mais pas l'argument technique. Nos populations ne sont pas à ce niveau.
Et quel est le principal reproche que vous lui feriez?
Cheikh Antoine ne s'est pas beaucoup intéressé à l'économie. C'est vrai ou c'est pas vrai?
C'est vrai.
Ce qui l'a intéressé, c'est l'industrialisation, qui était notre fétiche à l'époque. Nous étions tous des colbertiens, comme Colbert. Ça aussi, c'est une de notre psychologie. Cheikh Antoine est à la fois colbertien et anti-colbertien. Vous croyez que c'est un jeu de mots pour moi? Du tout. Il est fasciné par l'industrie. Et à la preuve, le premier titre de son texte, c'est l'industrialisation. Et ce qu'il a fait là, c'est pas un document politique, c'est un document qui parle de l'industrie au niveau de l'Afrique. J'ai dit exact ou pas?
C'est vrai.
S'il y a quelqu'un que j'ai lu dans ma vie, c'est Cheikh Antoine, il n'y a pas d'autre. Parce que je le prenais très au sérieux. Très au sérieux, effectivement. Mais il a fait le travail qu'il fallait faire. Mais il ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Et les gens ont été souvent injustes à son égard, en disant qu'il ne doit pas fouiller dans le passé. Le passé est utile, c'est important. Mais il ne faut pas s'en tenir seulement au passé. Passer tout son temps à être nostalgique, à être victimiste. On est victime de la colonisation, on commence à ronfler, à dormir en disant que nous ne sommes pour rien, nous sommes irresponsables. Ça, c'est autant de questions que nous devons aborder courageusement.
Docteur Yorossi, vous étiez un de ses proches et disciples. Que reste-t-il de son travail, de ses recherches aujourd'hui?
Cheikh a créé quand même une rupture. Parce que moi, je me souviens quand j'étais étudiant, quand j'ai commencé ma médecine en 49, vous étiez jeune, beaucoup de nos camarades disaient « Cheikh, c'est un rêveur, quoi. C'est un farceur. Pour eux, quoi, tout avait été inventé par le blanc, hein, comme ils disaient, hein, par les Européens, par ceux. Et ils ne se remémoraient même pas que quand même, il y avait la civilisation chinoise, il y avait la civilisation hindoue, il y avait d'autres civilisations, même s'ils ne nous reconnaissaient pas. Une civilisation à nous, Africains, il y en avait d'autres. Et petit à petit, actuellement, de ce côté-là, quand même, il reste beaucoup. D'ailleurs, il y a des clubs Cheikh Anta Diop dans les lycées à travers le Sénégal qui ont été créés, qui sont en train de prospérer chaque année.
Et même au-delà du Sénégal. Hein.
Ah voilà, il y a des prix qui sont offerts. Et moi, je ne me décourage pas. Je sais que nous avons raison. Il n'y a qu'une seule race. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a une race humaine. Tout est en chantier. Il y a beaucoup de choses en chantier, comme dit le Cheikh. Moi, je vous donne des chantiers. J'ai travaillé là-dessus. Les jeunes n'ont qu'à travailler, de tous les pays du monde d'ailleurs. Et puis, ils créeront autre chose, ils trouveront autre chose. Mais au moins, qu'ils travaillent, mais alors sur des faits, qu'ils soient animés par l'esprit scientifique. Il n'est pas question de dire, moi, les Noirs sont ceci, les Noirs sont là, ils sont ceci, ils ne sont pas cela. Non. Cheikh était détaché de tout cela parce que la chance qu'il a eue, c'est qu'il sort d'une famille, il ne le dit pas, mais d'une famille princière. Hein, donc il n'avait pas de complexe hein, sur la supériorité ou l'infériorité d'un homme.
Même si les recherches et la théorie de Cheikh Anta Diop ont été acceptées par certains, ou font en tout cas l'objet d'approfondissements de la part de quelques scientifiques, même si beaucoup reconnaissent la véracité de certaines démonstrations faites par le scientifique, elles continuent, il faut le reconnaître, d'être combattues avec violence par quelques historiens et anthropologues qui officient dans l'univers académique et qui n'imaginent pas une seule seconde que le nègre puisse être leur ancêtre et que l'Égyptien ait pu être noir. Comme ce professeur sur une radio périphérique de Paris, dont je n'ai pas envie de citer le nom.
Et Cheikh Anta Diop est un homme d'une autre époque historique, parce que Cheikh Anta Diop n'est pas un homme de terrain. Cheikh Anta Diop n'a mené quasiment aucune recherche sur le terrain. C'est un compilateur, et un compilateur sélectif, qui avait une idée, une intuition, et il en a fait un système. Et ce système a eu un dégât, a eu des conséquences considérables, notamment aux États-Unis. Oui, Dominique Venner.
Ces élucubrations, nous pourrions évidemment les traiter par le mépris, en nous disant, bon, après tout, ce n'est pas parce qu'il y a un folliculaire qui, un beau jour, développe une thèse, que nous allons pour autant la reprendre, la discuter et faire même se déranger le professeur Audry pour y répondre. Alors, en France et en Europe, pour le moment, semble-t-il, l'influence de ces thèses sont assez limitées.
Détrompez-vous.
Mais en revanche, aux États-Unis, je pense qu'elles sont beaucoup plus importantes.
Détrompez-vous, Dominique. Détrompez-vous. Aux États-Unis, l'impact est considérable. Parce que ces thèses ont été prises pour argent comptant par la nouvelle école historique négro-américaine. Et il y a aux États-Unis des universités noires américaines. Mm-hmm. Il y en a plusieurs. Et ces universités noires américaines ont fait des postulats de Cheikh Anta Diop l'histoire officielle de l'Afrique. Et ils ont transposé les schémas aux Amériques. Mais il y a des moments où la plaisanterie a des limites, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est cette plaisanterie qui est l'histoire officielle du monde noir aux États-Unis.
Lorsque l'on écoute ces propos et les nombreuses réactions qu'ils suscitent encore de part et d'autre sur la toile, on comprend combien cette question de l'origine de l'homme est importante. Il n'y a pas si longtemps que cela, les grands scientifiques affirmaient encore, avec force, avec la même conviction, que le nègre n'avait pas d'âme. Et c'était cela, la vérité scientifique, qui pendant longtemps a fait du noir un sous-homme. Et pour paraphraser Cheikh Anta Diop, si tu as toutes les connaissances du monde et que tu ne sais pas ce que tu es, eh bien tu ne sais rien. Car la connaissance commence par la connaissance de soi. Fin des citations. Et le débat risque de durer encore longtemps au regard des enjeux pour corriger d'un côté comme de l'autre l'histoire à son avantage. En tout cas, au moment où se termine cette série d'Archives d'Afrique spéciale Cheikh Anta Diop, nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook comme vous le faites depuis le début. Nous vous donnons rendez-vous sur l'antenne la semaine prochaine. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous souhaitons un bon week-end à l'écoute des programmes de RFI. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Wolay, ci kaw lay joge, wolay, danu ci seru, wolay.